Vous avez devant vous sur l'écran une image qui est un tableau qui a été peint il y a de nombreuses années déjà par Harry Anderson. Ce peintre qui s'est fait connaître par les nombreuses illustrations que nous retrouvons de lui dans les livres bibliques, illustre ici quelque chose d'assez paisible, d'assez extraordinaire cependant. Et pour ceux qui nous écoutent par Internet ou par la radio, j'aimerais décrire ce tableau qui est ici. On voit dans un jardin Jésus qui est assis sur un banc et il y a avec lui trois enfants. Il y a une fille qui est debout à côté de lui avec une robe bleue, assis par terre avec un avion en main, c'est un petit garçon. Et sur les genoux de Jésus, une petite fille avec une robe rouge et blanc. Et elle regarde Jésus, comme d'ailleurs les deux autres enfants. Ils sont tous en train de regarder Jésus. Et une question est évidente sur le regard de cet enfant. Elle est en train, avec son doigt, de montrer la main de Jésus. Et la question que cet enfant pose, c'est le titre, en fait, de ce tableau. Qu'est-il arrivé à tes mains? Qu'est-il arrivé à tes mains? Il y a dans ce tableau beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, de calme. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que les enfants sont habillés comme on s'habillait dans les années 50 environ. Mais Jésus, sur ce tableau, est habillé comme on s'habillait de son temps. Nous sommes habitués à ce tableau et on ne voit plus peut-être aujourd'hui l'anachronisme qu'il y a. Cependant, dans les années 50, on ne s'habillait pas comme Jésus est habillé ici. Et du temps de Jésus, on ne s'habillait pas comme les enfants sont habillés ici. Alors pourquoi le peintre a-t-il représenté Jésus dans les vêtements que Jésus avait de son temps? Il a représenté les enfants tels qu'ils sont habillés dans leur époque, disons. Mais Jésus est encore le même. Jésus est encore habillé de la même manière qu'il était il y a 2000 ans, lorsqu'il parcourait avec ses sandales les chemins poussiéreux de la Palestine. Cet anachronisme est intéressant parce qu'il essaye de nous faire comprendre que Jésus est toujours le même. Que nous vivions dans les années 50 ou dans le 21e siècle, que l'on soit d'un siècle passé ou du siècle d'aujourd'hui, Jésus est toujours le même. Il est accessible à tous dans tous les temps. Et les Écritures essayent de nous faire comprendre cette vérité en employant des expressions lourdes de sens et auxquelles nous nous sommes habitués. Dans le livre du prophète Daniel se trouve un passage que nous connaissons, mais qui est curieux quand on y pense. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, se trouve un passage qui est relié ici avec la prophétie, mais permettez que nous lisions le verset 13. Daniel, chapitre 7, le verset 13. Il est écrit ceci. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. » Ce texte concerne un événement qui a lieu à la fin des temps. Le moment où Jésus se présente devant Dieu le Père dans le jugement dont il est question dans ce chapitre et dans le chapitre suivant. C'est présenté dans le texte en disant qu'il s'avance vers l'Ancien des jours. Mais vous avez remarqué, il nous est dit que c'est quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Cet événement qui concerne la fin des temps présente Jésus comme le fils de l'homme. C'est d'ailleurs un titre que Jésus aimait employer pour lui-même. Il l'employait régulièrement et il aurait voulu que le sens de cette parole pénètre l'esprit de ses contemporains. Le fils de l'homme. Dans l'évangile selon Matthieu, vous vous souvenez, au chapitre 16, il est raconté que Jésus va partir en vacances avec ses disciples au nord de la Palestine et qu'il va s'entretenir avec les disciples pour les entraîner dans le ministère qui les attend. Il va leur demander « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Jésus veut entendre de leur part ce qu'eux ont entendu des autres. Et il va poser la question en disant, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Un titre que Jésus aime employer pour faire comprendre qu'il est avec nous, Emmanuel. Il y a dans l'Évangile plusieurs passages intéressants d'ailleurs à ce sujet. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, il est question là de l'autorité de Jésus. Et bien que nous soyons accoutumés à lire ces passages, en y réfléchissant, ils présentent des choses qui sont curieuses. Regardez dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, au verset 6, il est dit ceci. Vous vous souvenez, Jésus est confronté à un homme malade, et il est question de savoir si il peut le guérir. Et il est dit au verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Remarquez comment Jésus s'exprime. Il parle du Fils de l'homme en parlant de lui. Mais il présente très clairement le fait que ce Fils de l'homme a en plus le pouvoir de pardonner les péchés. Mais qui peut pardonner les péchés? S'il avait dit « le Fils de Dieu », on comprendrait mieux peut-être parce qu'on comprend que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus, intentionnellement dans ce passage, se présente comme le Fils de l'homme, capable cependant de pardonner les péchés parce qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Il est homme, mais il peut pardonner les péchés, donc il est Dieu en même temps. Il est difficile pour nous de comprendre que dans une seule personne, il y ait ces deux natures. Et ne me demandez pas de l'expliquer, je le reçois par la foi de la part du Seigneur Jésus. Je comprends que Jésus aimait se présenter comme le Fils de l'homme pour que ceux qui l'entourent comprennent vraiment bien que, bien qu'ayant la nature divine dans sa totalité, il avait aussi la nature humaine dans sa totalité. Dans un passage du livre des Actes, la même expression est employée dans un contexte intéressant. C'est au chapitre 7 dans le livre des Actes. On assiste dans ce chapitre à la lapidation d'Étienne. Et dans le témoignage qu'il donne dans ses derniers instants, Étienne dit ceci au verset 56. Actes chapitre 7, verset 56, il est écrit, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jésus est remonté au ciel cependant. Et pour nous faire comprendre que Jésus, même remonté au ciel, Jésus même ressuscité, va garder cette nature humaine. Ici, poussé par l'Esprit, Étienne va dire, « Celui que je vois assis à la droite de Dieu, c'est le Fils de l'homme. » Il est dans les cieux maintenant, et Étienne le voit. Curieusement, avant même que Jésus ne vienne sur la terre, Daniel, dans sa vision, voit comme le Fils de l'homme qui se présente devant Dieu. Il est curieux de voir dans l'Ancien Testament l'utilisation de ce titre par rapport à Jésus, alors qu'il n'est pas encore là. Et maintenant, dans la bouche d'Étienne, on entend la même expression alors que Jésus n'est plus là et qu'il est remonté au ciel. Il est nécessaire de comprendre, et la parole de Dieu s'y applique, que Jésus, venant sur notre terre, accepte la nature humaine et il l'accepte pour toujours. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, se trouve ce discours de Jésus concernant les signes des temps. Et à la fin de ce discours, en parlant de son retour, Jésus emploie encore une fois cette expression intéressante au verset 30. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, au verset 30, il est écrit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Le Jésus que nous attendons, Le Jésus qui a promis de revenir sera un Jésus qui sera lui aussi, et encore, entièrement Dieu, mais entièrement homme, comme vous et moi. Le Jésus qui revient, c'est aussi le Fils de l'homme. Cet enseignement est extraordinaire parce qu'on apprend que Jésus a accepté cette nature humaine pour venir, pour nous sauver. Mais la conséquence de ce plan du salut n'est pas la même pour lui que pour nous. Nous, nous allons être sauvés par sa grâce, recevoir la vie éternelle, mais les conséquences de ce plan du salut pour lui seront permanentes et éternelles. D'une manière permanente, Jésus va conserver cette nature humaine qu'il a accepté de prendre pour nous sauver. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 25, se trouve ce passage qui, à plusieurs égards, est extrêmement troublant. Écoutez ceci. Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. En assurant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé et qui subsistera d'âge en âge. Et puis cette phrase. En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. Je suis touché à la pensée de savoir que en Christ, nous sommes unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. C'est dire à quel point Dieu veut établir avec nous par Jésus un lien particulier, un lien unique. Il est le Fils de l'homme et c'est ce que Jésus veut dire en employant ce titre à son sujet parmi ses contemporains. Je suis un avec vous à 100%. Et parce qu'il est un avec nous à 100% et un avec Dieu à 100%, le lien qui nous unit à Dieu est un lien qui est devenu unique dans l'univers. Quelle grâce ! De plus, ce passage nous rappelle que ce n'est pas seulement Jésus qui a adopté la nature humaine. Vous avez remarqué les termes qui sont employés ici ? En la personne de son Fils, Dieu a adopté la nature humaine. Le sacrifice de la croix n'est pas le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice de la divinité dans sa totalité pour nous sauver. Et c'était nécessaire qu'il en soit ainsi. Regardez ce passage avec moi dans l'Épître aux Hébreux, où l'apôtre Paul essaye de montrer l'importance de cette nature particulière et unique de Jésus. Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 17, il est écrit ceci. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'était nécessaire pour que le travail d'expiation que Jésus a pris à cœur d'accomplir pour nous puisse s'accomplir. Jésus, une main tournée vers Dieu, a tourné l'autre vers l'humanité pour refaire le lien, combler la cassure, la coupure que le péché avait créée. Il était nécessaire que Jésus soit Dieu et que Jésus soit homme pleinement. Mais cette nature humaine, Jésus va la garder pour tout le reste de l'éternité. Alors imaginez avec moi ce comité de la divinité. Il y a plus de 6000 ans en arrière, lorsqu'ensemble réunis, ils choisissent de créer notre monde et de créer l'humanité en 6 jours littéraux pour donner le 7e jour comme jour de sabbat. Et puis, imaginez ce même conseil. 6000 ans plus tard, Ils se réunissent encore pour faire le point des derniers événements du plan du salut. Mais dans ce comité de la divinité, il y a un homme. Il y a un être humain comme vous et moi, au sein même du cœur de la divinité. C'est assez incroyable de penser à quel point Dieu a voulu que cette humanité soit placée au cœur même de la divinité pour que le salut soit assuré pour vous et pour moi d'une façon éternelle. Les disciples se rendaient bien compte que Jésus avait cette capacité de leur apporter le salut entier par ce qu'il était capable de faire. Dans le livre « Vers Jésus » à la page 80, il est écrit ceci. Les disciples savaient que devant le trône de Dieu, Jésus était toujours leur ami et leur sauveur. Ils savaient que sa sympathie n'avait pas varié et qu'il s'identifiait toujours à l'humanité souffrante. En montrant ses mains et ses pieds percés devant son Père, Jésus rappelait à quel prix il les avait rachetés. Les disciples savaient qu'il était monté au ciel pour leur préparer des places et qu'il reviendrait les prendre avec lui. Les disciples savaient que Jésus, présentant la marque de son sacrifice à son Père, était allé au ciel acquérir un salut éternel pour vous et pour moi. Alors j'en reviens à notre image, l'image que vous avez sous les yeux, où Jésus, habillé dans ses vêtements d'il y a 2000 ans, parle avec les enfants habillés dans leurs vêtements des années 50. Ce Jésus qui est toujours le même, ce Jésus dans lequel, nous disent les Écritures, il n'y a pas une ombre de variation. Ce Jésus qui demeure homme avec les hommes et Dieu comme Dieu. Il est là à la portée de chacun et en réalité, dans ce jardin, au lieu de ces trois enfants, ça pourrait être vous et moi. Nous pourrions être avec lui dans ce jardin, habillés comme nous sommes, tel que le peintre l'a voulu ici, et lui dans ses vêtements d'être humain lorsqu'il est venu sur la terre. C'est ainsi que le peintre l'a voulu, pour souligner cette question. Mais qu'est-il donc arrivé à tes mains? Ce passage, en réalité, se trouve dans les Écritures, dans ce texte prophétique du livre de Zacharie, au chapitre 13. Zacharie, chapitre 13, au verset 6, se trouve ce passage concernant Jésus, où il est dit: et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. On retrouve dans ce passage exactement ce que Jésus a vécu. C'est exactement dans la maison de ceux qui l'aimaient qu'il a reçu les marques de son sacrifice. Mais s'il venait dans l'Église aujourd'hui, il dirait la même chose, parce que nous sommes aussi coupables de ce sacrifice, car il a été nécessaire non seulement pour les gens de ce temps-là, non seulement pour les gens d'avant, mais pour nous aussi de la même manière. C'est aussi dans la maison de ceux qu'il aimait qu'il a reçu ces marques, parce que c'est aussi pour ceux-là qu'il les a portées. Ainsi, un jour, dans le royaume des cieux, nous pourrons discuter avec Jésus et lui demander tout ce qui nous a échappé dans notre parcours terrestre ici-bas. Et puis un jour, nous disent les Écritures, le Seigneur va effacer de notre esprit la mémoire de toutes ces pages sombres de l'humanité pécheresse, avec tout ce qu'elle a comporté de misère, de souffrance et de mort. Alors on viendra voir Jésus et on lui dira encore: dis-moi, qu'est-il arrivé à tes mains? Et on dira encore: raconte-nous donc l'histoire de Jésus.